BFM Business, tout pour investir.
Il est 11h, bienvenue dans Tout pour investir, l'émission au service de votre argent, de votre patrimoine, de votre capital qui vous aide, enfin qui va tenter de vous aider à devenir de meilleurs investisseurs. Je rappelle qu'on est bien sûr à la télévision, à la radio, sur internet et puis que vous nous retrouvez bien sûr en podcast, l'actualité du jour. Bon, on en a parlé déjà depuis ce matin, mais enfin c'est ce qui va nous tenir en haleine pendant 36 heures grosso modo. Ce sont ces marchés qui ne font pas grand chose en ce moment, on se met en mode pause avant le verdict de la réserve fédérale américaine, réunion qui débute dans quelques heures du côté des États-Unis. On va pas mal en parler ce matin avec nos invités, bien sûr Christian Fontaine qui sera avec nous en quelques minutes, le directeur de la rédaction du Revenu, et puis Félix Baron, le fondateur du club des investisseurs indépendants, et puis on fera le point technique bien sûr comme tous les jours sur les marchés, ça sera dans une vingtaine de minutes avec Gilles Santacreux. Sinon aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors on va commenter cette actualité des marchés et se rendre compte que finalement pour un mois de septembre à la Bourse de Paris, on est pas mal. Alors qu'on sait qu'habituellement le mois de septembre est un mois un petit peu difficile à négocier du côté des marchés actions, là sur 15 jours finalement le bilan est assez positif. On espérera de comprendre bien sûr comment on peut expliquer cette résilience malgré le flou artistique. Ouais, historiquement quand on regarde sur les 3-4 dernières années, le mois de septembre a quand même été difficile à la Bourse de Paris. Là pour l'instant ça va. Sinon, de quoi est-ce qu'on va parler ce matin? Nous allons parler du PEL, du plan épargne logement, avec Christian Fontaine qui sera avec nous aussi tout à l'heure du côté de 11h30. Parce qu'il y a un petit scandale, une sorte de petit scandale dans l'air. Est-ce que vous savez quand vous avez ouvert votre PEL? Parce que sachez-le, si vous l'avez ouvert après le 1er mars 2011, eh bien, il sera automatiquement fermé. Alors, pour les premiers, à partir de 2026, 1er mars 2026, oui, c'est une loi qui est passée en 2011, qui stipule que les PEL ouverts après le 1er mars 2011 seront fermés 15 ans après. Ça commencera 15 ans après, 1er mars, et puis ainsi de suite en fonction de la date d'ouverture. Et tout ça, évidemment, sera redirigé vers un produit d'épargne qui sera moins bien rémunéré. Ça sera le coup de gueule de Christian tout à l'heure à 11h. 11h40, le placement du jour. Focus sur les PME. Est-ce que les PME peuvent pas constituer un phare, une lumière dans le flou ambiant? On en parlera. Et puis on parlera crowdfunding un peu avant midi avec le patron de Softfund, Benjamin Watine. C'est l'une des plateformes pionnières en France. Comment est-ce que va le crowdfunding en 2025? Il y a eu 10 bonnes années et puis il faut dire les choses comme elles sont, ça a tendance à ralentir sérieusement depuis un an et demi. Il y a la conjoncture bien sûr un peu plus morose et puis l'immobilier qui marche moins bien. Et l'immobilier participatif qui marche moins bien, forcément ça va jouer sur le reste. Voilà pour le sommaire, vos questions je vous rappelle vous les posez par mail si vous en avez, un direct at bfmbusiness.fr et puis sinon vous nous envoyez un SMS au 7-32-16, vous tapez le mot-clé BFM Business suivi de votre message par SMS, donc au 7-32-16. 11h03, je vous redonne les grands titres de l'actualité de ce mardi matin dans quelques heures. Donc je vous le disais, début de cette réunion de la réserve fédérale américaine, très attendue puisque la Fed devrait baisser ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 9 mois. Les marchés attendent ça bien sûr, ils attendent aussi le discours de Jay Powell qui leur donnera peut-être des indications sur sa politique au cours des prochains mois. La Fed qui accueille par ailleurs in extremis un nouveau membre et nouveau votant pour cette réunion, Stéphane Miran, qui est un proche de Donald Trump. Sa nomination a été confirmée cette nuit même par le Sénat pour qu'il puisse participer à cette réunion aujourd'hui. En revanche, mauvaise nouvelle pour le président américain, Lisa Cook, vous savez, cet autre membre du board qu'il avait tenté de limoger. Lisa Cook va précisément rester à son poste sur décision d'une cour d'appel. En attendant le verdict de la Fed, demain soir, les marchés américains ont fait la fête hier soir avec de nouveaux records sur le S&P et le Nasdaq, et puis record aussi pour Alphabet, le groupe a passé la barre des 3000 milliards de dollars de capi pour la première fois de son histoire, comme l'avait fait avant lui Apple, Microsoft ou bien sûr Nvidia. Donald Trump justement qui arrive à Londres aujourd'hui pour une visite d'État de 48 heures. Les Britanniques vont chercher à éviter de nouveaux droits de douane en faisant valoir le fait qu'ils ont été parmi les premiers à conclure un deal avec l'administration américaine. Et puis au passage, juste avant cette visite officielle, on apprend que Google va investir 5 milliards de livres du côté du UK dans l'intelligence artificielle. 5 milliards de livres là-bas sur 2 ans. En France, bonne nouvelle annoncée ce matin dans la presse par le gouverneur de la Banque de France. La croissance cette année chez nous devrait être non pas de 0,6 mais de 0,7%. C'est toujours ça de prix. En revanche, la prévision est légèrement abaissée pour l'an prochain. On passe de 1 à 0,9%. Et puis concernant le budget 2026, Sébastien Lecornu continue de consulter tous azimuts. Il doit recevoir la CPME ce matin. Demain, il recevra pas mal de groupes politiques, hein, PS, PC, Écologiste, Rassemblement National. Les Républicains, de leur côté, ont fait savoir ce matin qu'ils étaient prêts à se contenter d'un effort financier entre guillemets de 35 milliards d'euros l'an prochain contre les 44 prévus dans le projet de François Bayrou. Mais il pose, cela dit, des conditions. Pas question de suspendre la réforme des retraites et pas question non plus de taxer les hauts patrimoines. Voilà. De l'actualité à 11h06 sur BFM Business, c'est l'heure du tableau de bord.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Voilà, le tableau de bord. Donc, je vous le disais, des marchés qui ne font pas grand-chose. Regardez le CAC 40 qui est en légère baisse, moins 0,02%. On va regarder du côté des autres marchés européens. Vous allez voir, c'est très très calme ce matin. Pourquoi ? Parce qu'on va se mettre dans ses petits chaussons en quelque sorte jusqu'à la fin de la réunion de la Réserve fédérale qui commence dans quelques heures à Washington, qui va s'achever demain soir. A priori, pas de suspense pour les acteurs de marché. On attend une baisse des taux, la première en l'espace de 9 mois. Ça paraît acquis. Ce qui est entendu par contre par les analystes, c'est la prise de parole derrière de la Fed, les commentaires de Jay Powell. Avec la question de savoir si là on sera sur un one-shot finalement ou si on est parti pour un cycle de baisse plus conséquent, 2, 3, 4 baisses d'ici la fin de l'année. C'est très très compliqué à analyser pour les marchés, même pour les membres de la Fed. Vous avez d'un côté un marché du travail américain qui commence clairement à donner des signes d'essoufflement et puis en face vous avez une inflation qui résiste, qui est tenace, qui reste au-dessus des 2%, aux alentours de 2,4%. Si vous ajoutez à ça la conjoncture un petit peu plus compliquée et puis l'aimable pression de Donald Trump, on va dire ça comme ça, pour faire baisser les taux d'intérêt, on verra évidemment ce qu'il en sera demain. En tout cas, les marchés sont attentistes. La Bourse de Paris, je vous le disais, qui est proche de l'équilibre. Le taux à 10 ans français, on l'a vu rapidement, qui reste aux alentours de 3,47 pour l'instant. C'est très très calme après la dégradation par Fitch en fin de semaine dernière. On va regarder ce qui se passe du côté des valeurs du CAC 40 à la hausse ou à la baisse après deux heures de cotation. Pour voir quoi ? Que c'est Kering, poids lourd du CAC, qui nous sauve un petit peu la mise aujourd'hui, qui figure parmi la plus forte hausse du CAC 40, 3,5%, 264,20 euros grâce à une recommandation à la baisse de Jefferies. Et puis, du côté des baisses, vous voyez Bouygues qui est orienté à la baisse, qui perd 2%, 37,45 euros. L'Oréal aussi qui pâtit d'un abaissement de recommandation de Jefferies aujourd'hui, qui est sanctionné. Carrefour qui perd 1,4%. Et on perd aux alentours d'1,2% du côté d'Orange et de la Société Générale. Deux valeurs rapidement à regarder qui se distinguent aujourd'hui sur les marchés à la hausse ou à la baisse. On regarde Exel Technologies du côté des hausses qui est en train de baisser très clairement de 10% grâce notamment aux commandes générées l'an passé. Les résultats sont bons, mais c'est sanctionné par le marché. Et puis une valeur qui se distingue à la hausse, on en reparlera, c'est Vusion Group, vous savez, avec ses étiquettes électroniques qui s'envolent littéralement de 14% après avoir relevé ses objectifs pour cette année. Voilà, Exel en baisse de quasiment 10% et puis Vusion Group, on va le voir, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr, qui s'envole de près de 14%. L'euro-dollar, rapidement, on va regarder ce qui se passe du côté du marché d'échange ce matin. Voilà, Vusion Group, donc plus 14%. L'euro-dollar, en ce moment, 1,1794 pour 1 euro. Et puis, l'once d'or qui continue de battre des records. On est sur le 9e record en l'espace de 12 séances. 3694 points. On est pas loin des 3700 désormais pour l'once d'or. Voilà pour le tableau des marchés. Tout de suite, le déchiffrage avec nos premiers invités.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Le déchiffrage, ils sont en train de s'installer, nos invités, ils sont avec nous pour un petit quart d'heure, on est ravis de les accueillir. Christian Fontaine est avec nous. Bonjour Christian, bienvenue.
Bonjour Guillaume.
Merci d'être avec nous, directeur de la rédaction du Revenu. Puis Félix Baron qui est avec nous. Bonjour Félix.
Bonjour
bienvenue.
Guillaume.
Fondateur du Club des investisseurs indépendants. Merci messieurs, on a beaucoup de choses à voir. Bon, déjà pour commencer, on a fait le constat que il y a des marchés qui apparemment allaient rester dans leurs petits chaussons là pendant 36 heures, le temps de voir ce que nous dit la Fed. Bon, est-ce que c'est acté pour vous, baisse des taux d'intérêt américains demain, Christian ou
comment? La baisse semble actée, mais oui, malheureusement, elle est sans doute largement anticipée par les marchés. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que on doit être le 16 septembre aujourd'hui, donc ça fait, si on regarde un tout petit peu un micro bilan sur 15 jours de la Bourse de Paris, figurez-vous, c'est quand même pas si mal.
Mais oui.
Plus 2,5%. Alors, faut quand même pas trop vite se réjouir non plus. Hein. D'abord parce qu'on a fait que compenser, vous savez, la dernière semaine d'août avec l'annonce effectivement du vote de confiance, il y avait eu une chute de quasiment 4% de l'indice. Ensuite, lorsqu'on regarde un tout petit peu les statistiques et ce qu'on a fait aux revenus sur les dernières années, l'évolution du CAC 40 au mois de septembre, c'est pas extraordinaire. Hein. Généralement, on a tendance à dire c'est le mois d'octobre, le pire mois, le mois des cracks. En réalité, depuis 3 ans, ben, c'est plutôt septembre avec une baisse moyenne de 2,8%. Alors, au-delà en fait de l'effet purement statistique, il y a quand même le fond des choses. Hein. Le fond des choses, c'est que cette hausse de 2,5% masque quand même une augmentation du risque France qui est loin d'être négligeable. Lorsqu'on prend un tout petit peu plus de recul et quand on regarde l'évolution des indices depuis l'annonce de la dissolution en juin 2024, enfin, tous les grands indices européens ou américains progressent davantage que le CAC 40. Donc quand même, et puis lorsqu'on regarde un tout petit peu dans les détails, on voit bien que les bancaires, on voit bien que les valeurs immobilières, BTP, etc., celles qui sont les plus, sensibles aux risques politiques depuis un mois, elles sont clairement en baisse. Donc on voit bien que les choses ne sont pas si simples, et par contre il y a bien sûr des choses à faire. Alors pour paraphraser un peu, il y avait Villeroy Gallo qui était sur votre antenne vendredi dernier, et il parlait d'un pragmatisme agile, et c'est vrai que ça peut être aussi un bon guideline pour les investisseurs particuliers en bourse. En tout cas, il y a des choses à faire.
Alors, il y a des questions dans la tête. On va voir ça dans un instant, effectivement, beaucoup de questions. Sur la Fed, la même question que je vous pose, Félix, est-ce que c'est acquis? Voilà, qu'est-ce que vous allez regarder demain? Outre la décision, les commentaires peut-être de Jay Powell, tout le monde attend ça, tout le monde est au garde à vous, là, finalement.
Ouais, je vais évidemment regarder la décision, si c'est un secret de polichinelle ou pas, si c'est une réduction de 25 ou de 50 points de base, mais...
Ah, vous avez encore un doute là-dessus? 50 points de...
Je suis pas encore dans les petits papiers de la Fed, mais le temps fera son œuvre. Ouais. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que demain, c'est la troisième baisse des taux depuis 30 ans, alors que la bourse est au plus haut. Ouais. Généralement, quand on baisse les taux, l'économie est déjà affaiblie. Là, l'économie américaine, c'est 3% de croissance a priori au troisième trimestre. Le chômage qui est encore faible. On sait que les créations d'emplois nettes sont pas au beau fixe. Ouais. Mais le chômage est encore faible. La consommation est stable. L'inflation est élevée. Et donc, baisser les taux dans ces conditions, dans ce contexte, on ne sait pas trop. D'habitude, quand on baisse les taux, les Fed cuts sont 95% du temps suivi d'une baisse du marché. Pourquoi ? Parce que il y a une anticipation en fait de crise de confiance, parce que disons que la baisse du coût du crédit, elle est déjà intégrée dans le marché. Généralement, il y a un flight to safety, quoi. On va vers les obligations dont le cours a tendance à augmenter. Là, c'est tout le contraire. On baisse les taux alors que les marchés sont au plus haut. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? En moyenne, dans 75% des cas, la bourse augmente de 14% au bout d'un an. Donc, on peut se dire que la situation qui nous attend dans 12 mois ou dans 18 mois est favorable. Mais à court et moyen terme, on va dire, entre la décision et les 12 mois, là, on peut s'attendre à de la volatilité sur le marché. Ouais. Parce que forcément, si on rajoute du carburant en fait, dans la machine, en baissant les taux, il va y avoir des arbitrages, des gens qui vont vouloir aller sur des actifs moins risqués, comme le Bitcoin, comme l'or, pour se prémunir du risque contre le dollar, parce que baisser les taux, c'est encore plus affaiblir le dollar. Donc, il y a vraiment deux stratégies à avoir. Est-ce que je veux parier à long terme sur des actifs de qualité ? Dans ce cas-là, je peux rester sur les actions, et même les actions des plus grosses boîtes, qui ont beaucoup de cash et de la forte croissance, et on peut rester sur les 7 magnifiques, mais il faut s'attendre à traverser peut-être 12 mois de turbulence.
Mais vous me disiez hier, le S&P continue de progresser, mais moins vite que l'or, quand même. Ça, c'est pas anodin, quand même.
Oui, c'est ça qui est assez intéressant. Si on regarde le ratio S&P to gold, sur l'once d'or, le ratio est supérieur à 1, est inférieur à 1, c'est-à-dire que l'or, depuis le début de l'année, a dû augmenter. Là, vous parliez de l'once qui est pratiquement à 3 700.
Quasi à 3 800, oui, voilà.
3 700 ou 3 800.
3 700, pardon.
On parlait sur ce plateau, il y a peut-être moins d'un an, de à quand les 3 000 $ l'once. Ouais. Et je disais en coulisses, juste avant de rentrer dans le studio, sur le plateau, à Christian, est-ce qu'on sera à 4 000 à Noël?
Donc, mais vous avez vu ce qu'a dit Goldman Sachs il y a de ça 15 jours? Il dit, voilà, compte tenu des risques qui pèsent notamment autour de l'indépendance de la Banque Centrale Américaine, pourquoi ne pas aller chercher une once d'or à 4 500 mi-2026? Bon, Goldman Sachs n'a pas toujours eu, effectivement, la science infuse, mais comme non, parce que c'est quelque chose qui vous paraît...
C'est quelque chose qui paraît probable, vu et vous en parliez, vu la parité du change du dollar avec les autres monnaies. La baisse des taux alimente le phénomène dont j'ai parlé la semaine dernière de la monnaie fondante. Vous baissez vos taux pour financer vos déficits ou pour financer votre croissance, pas de problème. Mais ce qu'il faut accepter, c'est la baisse du pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir d'investir, le pouvoir d'épargne, le pouvoir d'achat. Vous baissez les taux, vous augmentez l'inflation, la monnaie perd de sa valeur, donc il faut la protéger.
Christian, enfin...
Alors, difficile de lire dans la boule de cristal et de savoir si l'once d'or sera à 4 000 $ en dessous ou au-dessus à Noël. En fait, tout va dépendre de l'évolution des risques. En fait, la vraie nouveauté, c'est que l'or et le Standard & Poor's 500 progressent. C'est-à-dire, en fait, les actions progressent et l'or progresse. Généralement, c'est l'un ou l'autre. Et là, c'est l'un et l'autre. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire. En fait, c'est plutôt la nouveauté. Alors, pourquoi cette nouveauté? Parce qu'il y a à la fois beaucoup d'argent, il y a effectivement cette perspective de baisse des taux. Donc, il y a une volonté toujours de se positionner sur la classe d'actifs la plus rentable à long terme, les actions cotées ou non cotées. Et puis de l'autre, il y a quand même des risques. Hein, donc il y a effectivement des risques de change, il y a effectivement des risques tarifaires, il y a des risques budgétaires, des risques politiques en France, et puis des risques géopolitiques. C'est pour ça que les deux classes d'actifs progressent. En fait, la conclusion sur le plan pratico-pratique qu'on peut en tirer un peu pour les auditeurs qui cherchent des bons plans pour leur épargne, c'est qu'aujourd'hui, il faut certainement être très très diversifié en termes de classe d'actifs qu'en termes sur le plan géopolitique.
L'épargne, justement. On en parlait hier, Christian, pour préparer cette émission. Qu'est-ce qu'il a en tête? Quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui, très concrètement, quand on est épargnant?
Alors, l'épargnant, effectivement, il cherche des bons plans. Mais où vous avez raison, c'est qu'on ne se renforce pas, et là, je vais peut-être choquer certains, mais j'y vais tout de même, on ne se renforce pas en bourse parce qu'on pense que les actions vont augmenter. On n'achète pas de l'immobilier parce qu'on pense que les prix vont augmenter. On achète de l'immobilier quand on se marie. On vend quand on divorce. On investit en bourse quand on a de l'argent. Alors c'est un petit peu caricatural, mais dans une période comme aujourd'hui, où on est en pleine période d'instabilité, à tous les niveaux, on vient d'en parler, on est en plein brouillard. Donc, soit il y a deux stratégies possibles. Soit on essaye d'anticiper l'avenir, mais franchement, c'est lire dans le marc de café. Soit on essaye, en fait, de se dire et de baser ses décisions d'investissement sur sa situation personnelle. Et sa situation personnelle, c'est quoi? C'est répondre à trois questions. C'est pourquoi j'investis? C'est... quel profil d'investisseur suis-je? On pourra y revenir. Donc, alors, est-ce que mon appétit au risque ou à la sécurité, etc., quel temps je suis prêt à consacrer chaque mois à mon investissement? Et la troisième question, c'est quel placement répond le mieux à mes objectifs? Et si vous procédez de la sorte choisir vos investissements, vous ne commettrez pas d'erreur. Et vous savez, les marchés sont au plus haut aujourd'hui. Donc, il y a une question qui se pose. Faut-il acheter ou faut-il vendre? Eh bien, tout dépend de votre situation personnelle. On va prendre deux personnes quasiment identiques qui ont la même somme à placer, qui ont chacune 40 ans. Une personne qui a 40 ans, 100 000 euros à placer, mais qui est locataire. Elle n'a pas un euro en bourse. La question du revenu, ça va être de placer, d'investir cet argent en immobilier pour sécuriser son avenir financier et, offrir un toit à soi-même et à ses proches. Une autre personne qui a le même âge, 40 ans et 100 000 euros à placer, elle est bien installée dans la vie, elle sait que ces 100 000 euros, elle va pouvoir, les bloquer pendant au moins une quinzaine d'années. Elle n'est pas du tout investie sur les marchés financiers, le Conseil du Revenu, mais investissez la totalité de cet argent en bourse. Alors progressivement, bien sûr, progressivement. Donc on voit bien deux personnes qui ont la même somme à placer, mais des conseils diamétralement opposés. Et on voit bien que dans une situation comme aujourd'hui, en plein brouillard, il faut revenir à ce type de questions de base pour s'y retrouver et faire les bons choix d'investissement.
Là, vous demandez de prendre la page blanche et puis on reprend tout depuis le début. Suis-je ou vais-je? Et voilà, c'est terriblement existentiel.
Après, en termes de performance, je reprends cet exemple que Christian donnait. Celui qui va acheter de l'immobilier à 40 ans et celui qui va placer 100 000 euros, somme équivalente à 40 ans, dans des actions, en termes de performance, 20 ans plus tard, celui qui aura investi en bourse aura gagné beaucoup plus d'argent en plus-value latente, je ne sais pas s'il aura réalisé, que celui qui aura investi dans l'immobilier. Surtout si c'est de la résidence principale, puisqu'elle n'aura qu'une fonction utilitaire, il ne pourra pas la liquider à tout instant, tandis qu'un portefeuille boursier, on peut le liquider à tout moment en restant locataire. Mais chacun ses stratégies.
C'est toujours ce qui me fait peur quand les prix de les marchés sont au plus haut, que ça commence à faire les titres des grands médias généralistes que tout le monde se rue. Et combien de centaines de milliers d'actionnaires on a perdu à ce jeu-là depuis 10, 20, 30 ans? Enfin, c'est épouvantable. Ça, c'est vraiment
entièrement d'accord. Alors, c'est vrai, mais tout de même, une petite note positive, puisqu'en fait, les particuliers se sont beaucoup renforcés en bourse au moment du Covid, et globalement, ils ont plutôt été gagnants. Et sur le plan des placements, j'aurais tendance à dire, on ne spécule pas avec la résidence principale. La résidence principale, c'est son toit. Et le jour où vos revenus seront divisés par deux, le jour de la retraite, retraite, vous serez bien content de ne pas devoir décaisser chaque mois le montant d'un loyer.
D'accord avec ça, Félix.
C'est juste, et je, pour en rajouter une petite pique de contradiction, j'ai lu cette statistique hier sur les patrimoines américains. Maintenant, grâce aux actions, grâce au marché actions, donc le patrimoine des Américains s'est encore enrichi de je ne sais plus combien de milliers de milliards cette année, et c'est 10% des Américains les plus riches qui détiennent 93% du patrimoine boursier. Je ne mets pas ça pour marquer les inégalités, mais pour rappeler un phénomène. Plus la bourse va augmenter, plus ceux qui ne seront pas investis en bourse vont être laissés pour compte, laissés sur le quai. Ouais. Et ceux qui seront déjà investis seront gagnants à moyen, à long terme et à très long terme.
Puisqu'on parle de somme rondelette, il nous reste une grosse minute, Félix, mais vous vouliez en dire un mot. Elon Musk qui vient d'investir 1 milliard de dollars de sa poche dans Tesla. Bon, ça s'appelle acheter une baguette de pain, comme vous me disiez hier, à l'échelle d'Elon Musk, finalement. Voilà.
C'est ça.
Comment vous regardez cette opération?
0,2% de sa fortune.
Voilà.
Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que anecdotique, c'est son premier achat depuis 2020. Donc, ouais. Premier achat d'Elon Musk depuis 5 ans. Et c'est un signal fort pour les actionnaires, parce que l'achat d'un dirigeant d'une boîte, quand c'est de ses propres actions, c'est presque toujours suivi d'un mouvement haussier. Bon, là, c'est pas la même chose quand c'est la personne la plus riche du monde, a priori, qui investit 0,2% de sa fortune. Est-ce que c'est pour renforcer son contrôle dans Tesla ? C'est possible. Les optimistes verront un signal fort, donc, sur la confiance dans une période où Tesla est un petit peu chahuté sur le marché de la voiture électrique, avec la concurrence chinoise, avec des résultats trimestriels qui sont pas aussi bons qu'avant. Il y a aussi un pari sur la diversification, puisque Tesla fait des voitures, mais va maintenant faire des robots taxis et a beaucoup d'attentes et d'ambition sur les robots humanoïdes Optimus. Ouais. Les pessimistes verront, dans le côté des risques, une valorisation assez élevée, une volatilité qui a toujours été assez forte sur le titre. On n'est pas très loin du plus haut historique sur Tesla. À l'approche d'une baisse des taux, il faudra être prudent. Et on pourrait voir la diversification dont j'ai parlé aussi comme un risque. Dans quel sens on va ? Est-ce qu'on fait des robots ? Est-ce qu'on fait des robots taxis ? Est-ce qu'on fait des voitures ? C'est parfois difficile de faire les trois. Personnellement, et je le disais à Christian, j'ai acheté des actions. Ce n'est pas un conseil d'investissement. J'en ai acheté un petit peu en dessous de 400. Et ma stratégie est la suivante. J'ai mis un stop de protection très proche, à 380. Comme ça, je n'aurais pas perdu beaucoup d'argent. Ouais. Et on peut se dire, le marché du S&P bat tellement record sur record que est-ce que c'est possible, Nasdaq c'est pareil, ça suit, est-ce que c'est possible de ne pas aller chercher le plus historique d'ici quelques semaines, quelques mois à $450 et de prendre ses premiers profits? C'est une stratégie et les plus patients attendront peut-être 12-18 mois pour viser au-dessus des $500. On sait que les 7 ou les 10 magnifiques maintenant sont capables toujours de nous surprendre par le haut.
C'est peut-être aussi pour faire passer la pilule de sa hausse de rémunération, c'est Tesla qui l'a fait, voulu faire un petit geste à l'intention des
Il vient de dépenser 1 milliard, il faut bien
effectivement, voilà. Et ben voilà sur Tesla qui était cette valeur dont vous vouliez dire un mot, Félix. Merci beaucoup messieurs, c'est déjà fini pour notre rendez-vous. Félix Baron, merci Félix, fondateur du Club des investisseurs indépendants. Christian qui revient dans un petit quart d'heure, même pas 10 minutes, pour parler du PEL. Il y a un petit vent de scandale, on racontera ça dans un instant. À tout de suite, merci messieurs. 11h23 sur BFM Business, c'est le plan trading, tout de suite.
Tout pour investir, arbitrage.
Allez, on se reconnecte au CAC 40, on va regarder ce que fait l'indice parisien, qui fait pas grand-chose, puisque je vous le disais, tout le monde s'est mis un petit peu en mode pause avant le verdict de la Réserve fédérale américaine dans quelques 36 heures. On est avec Gilles Santacreux, trader algorithmique du site boursicoté.com. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous sur
BFM
Business. On va voir les niveaux du CAC 40, comment est-ce que vous regardez les niveaux actuels ce matin Gilles?
Alors au niveau du CAC 40, on est en train de consolider, je dirais, les niveaux que l'on a gagnés hier. Donc effectivement, la dégradation par Fitch n'a pas provoqué de mouvement baissier. C'est surtout la perspective stable qui a favorisé une stabilité au niveau des marchés. Donc clairement, on a eu un petit peu de volatilité ce matin. On est resté au-dessus des 7855 points, ce qui n'a pas déclenché de signal baissier. On reste toutefois sous une zone de résistance que l'on a testée hier à 7910 points. Donc cette zone, elle est importante puisqu'elle avait été support durant le mois d'août avant justement cette accélération baissière. Donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller aujourd'hui pour détecter la poursuite justement d'une dynamique haussière que nous avons depuis maintenant quelques jours. Ce qu'il faut bien observer et surtout mettre en perspective, c'est la surperformance du CAC 40 par rapport au DAX. C'est-à-dire que depuis la semaine dernière, on a une dynamique qui est assez intéressante et très positive sur le CAC 40, alors que le DAX ne fait pas grand-chose. Donc effectivement, on est dans un contexte qui n'est pas favorable. Malgré tout, le CAC 40 s'en sort bien. On est bien aidé par le luxe en ce moment. Et bon, si on se compare par rapport au marché américain, bien sûr, on est en retard. Mais je dirais que c'est plutôt rassurant pour la suite, puisqu'on était plutôt habitué ces derniers temps, liés à l'instabilité politique, d'avoir un CAC 40 qui était un petit peu à la traîne. Donc là, le fait de retrouver un petit peu de dynamique est plutôt rassurant pour la suite. Donc les niveaux à surveiller, 7910 points. Si on casse cette zone, on pourrait bien revenir sur une zone de résistance entre 7970 et 8000 points, alors que les niveaux d'alerte sont sous 7800 points pour neutraliser la dynamique haussière en cours.
On est à 7902 à l'heure actuelle sur le CAC 40. Voilà pour les seuils à surveiller aujourd'hui. Côté valeur, vous vouliez nous emmener dans l'univers des cryptos. Vous parlez de Solana, qui apparemment est la valeur qui surperforme le secteur à l'heure actuelle, Gilles.
Ouais, il se passe des choses sur Solana en ce moment. On a des rumeurs, d'un ETF spot qui font gonfler une bulle spéculative sur cette crypto. Par rapport au reste des cryptos, parce que ce qui est intéressant, c'est là aussi de comparer par rapport au reste du secteur. On a une nette surperformance de Solana par rapport aux autres crypto-monnaies. À titre d'exemple, depuis le début du mois d'août, c'est un gain de 50% que nous avons observé sur Solana. Donc, on est soutenu par une dynamique relativement forte. Là, depuis 2-3 jours, on a une phase de consolidation court terme temporaire qui ne remet pas en cause du tout, la dynamique haussière. Et on a de nombreux éléments qui pourraient favoriser la poursuite du mouvement en direction de zones clés. Alors, on a la zone des $260 sur Solana, qui est une zone de résistance, et surtout une zone de record à $295. Vu la hausse que nous avons eue ces dernières semaines, eh bien, on pourrait atteindre ces niveaux assez rapidement. Et le fait de repasser au-dessus de ces plus hauts, eh bien, pourrait continuer à alimenter justement cette dynamique haussière et à aller chercher de nouveaux plus hauts historiques. Donc, c'est vraiment une crypto à surveiller. Je regarde le luxe aussi au niveau des actions, oui. Notamment LVMH qui j'ai l'impression est en train d'enclencher un effet de rattrapage par rapport à d'autres valeurs qui avaient surperformé ces derniers mois. On a Kering aussi qui surperforme aujourd'hui. Donc ça, L'Oréal, je dirais un petit peu de mal aujourd'hui, mais on verra si c'est temporaire ou durable. Mais globalement, actuellement, ce sont les principaux éléments que je surveille, bien sûr en plus de l'or qui a encore battu des records.
Absolument, on le disait. On s'approche des $3700 l'once désormais. Puis le luxe, un petit peu en or dispersé. Il y a eu des recommandations de Jefferies ce matin. Une à la hausse et une à la baisse. Hausse sur Kering et puis à la baisse du côté de L'Oréal. Merci beaucoup Gilles. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Gilles Santacreux, trader algorithmique du site boursicoté.com avec nous sur BFM Business. Il est 11h27. On fait une petite pause et on revient dans un instant avec la deuxième partie de Tout pour investir. Je vous disais, petit scandale autour du PL, de tous les PL en fait ouverts après le 1er mars 2011. C'est là que vous venez vous intéresser peut-être pour vous demander quand vous avez ouvert le vôtre de PEL. Parce qu'il va se passer des choses. Le placement du jour, on fera un focus sur les PME. C'est peut-être une boussole dans la tempête ambiante. Et puis, question qu'on va poser, comment est-ce que ça va du côté du crowdfunding en France? Vous savez qu'il y a eu 10 bonnes années et puis que c'est franchement plus compliqué depuis maintenant un an et demi. On voit tout ça jusqu'à midi. En direct, bien sûr, sur BFM Business. À tout de suite.
Tout pour investir, l'actu du patrimoine.
Allez, 11h31, on est de retour dans Tout pour investir en direct sur BFM Business, à la télé, à la radio, sur Internet et puis les podcasts, évidemment. C'est l'heure de l'actualité de votre patrimoine et on est de nouveau avec Christian Fontaine qui nous a retrouvés. Rebonjour Christian.
Rebonjour Guillaume.
Directeur de la rédaction du Revenu, merci d'être avec nous. Alors on disait tout à l'heure, petit parfum de scandale du côté du PEL, du plan épargne logement. Je la fais courte et vous allez nous expliquer tout ça. Depuis le 1er mars 2011, pour faire court, tous les PL qui ont été ouverts seront automatiquement fermés au bout de 15 ans. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Vous faites les comptes, 2011 plus 15, ça va nous emmener à mars 2026. Qu'est-ce qui se passe à partir de mars 2026, Christian?
À partir de mars 2026, c'est qu'effectivement, vous avez 36% des PEL, pour être très précis, source Banque de France, donc c'est du sérieux, qui progressivement vont être fermés automatiquement. Alors attention, 36% des PEL, ça représente quand même plus de 1,1 million de titulaires. Quant au montant des encours, on parle quand même de 93 milliards d'euros. Ouf. Donc les chiffres sont colossaux, les sommes sont très très élevées. Et alors pourquoi ce je dirais ce magot sent un tout petit peu le souffle, parce que vous avez donné la date.
Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir? Oui, voilà.
C'est la date pivot, c'est le 1er mars 2011. Non, effectivement, ça remonte 15 ans en arrière. Alors, pourquoi cette date-là? Parce qu'à partir de cette date-là, en fait, les PEL ouverts depuis cette date-là ont une durée de vie limitée à 15 ans. Et avant, ils avaient une durée de vie illimitée. C'est-à-dire que si vous aviez un PEL d'ancienne génération, même encore aujourd'hui, qui rapporte du 4 ou 5% par an, vous pouvez le garder à vie. Donc, c'est véritablement jackpot, puisque en fait, c'est un placement sans risque avec effet cliquet. Donc, c'est un placement surtout à conserver. Et pour... alors, ce placement, effectivement, PEL, coûtait à l'époque très cher à un certain nombre d'établissements financiers qui ont obtenu donc une modification de la législation.
Ah, donc c'est le lobbying des banques qui a payé à l'époque, c'est ça qui vaut.
Ce qui est sûr, c'est que c'est l'épargne populaire qui est victime de cette évolution législative.
Oui,
La décision a été prise il y a 15 ans et c'est uniquement maintenant que les victimes vont payer l'addition. Donc très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que progressivement, à compter de mars 2026, plus de 1 million de PEL vont arriver à échéance, donc ils vont être transformés automatiquement en un compte sur livret qui sera imposé et rémunéré à un taux fixé par la banque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'épargnants ont des PEL rémunérés jusqu'à 2,5% et que si demain, par exemple, ils veulent transférer cet argent sur un livret A, eh ben, ils vont perdre de mémoire quelques 40% de rémunération. Si demain, leur PEL est clôturé, ils ouvrent un nouveau PEL, là, ils vont perdre 30% de rémunération. Alors, bien sûr, ils auront d'autres possibilités. Soit ils conservent le compte sur livret au taux qui sera proposé, au taux bancaire qui sera proposé par leur établissement. Mais de vous à moi, je ne suis pas certain que ça soit extraordinaire. Après ça, il y aura deux autres possibilités. On parle quand même de 1,1 million d'épargnants.
C'est considérable.
Il y aura l'autre possibilité, ça sera de placer sur une autre famille de placements. On pourrait faire un arbitrage en faveur de l'assurance vie, en faveur de la bourse, en faveur du compte titre ordinaire, en faveur d'un plan d'épargne retraite, voire on pourra aussi consommer cet argent. Les Français ont un des taux d'épargne les plus élevés au monde. On est autour de 19% du revenu disponible qui est épargné. Oui. Attention tout de même, la moitié correspond à peu près au remboursement du capital des prêts immobiliers. Mais c'est quand même énorme. Bon, et il faut, je dirais, lorsqu'on place bien son argent, l'un des intérêts aussi, ça consiste à utiliser, je dirais, les gains donc, lors de cette épargne pour se faire plaisir en famille, avec des amis ou acheter des biens d'équipement. Non, ce qui est très important quand même à voir, c'est que vous avez 1,1 million de Français qui vont, à compter du mois de mars 2026, devoir prendre une décision sur, je dirais, l'encours de leur PEL qui va être clôturé automatiquement. La mauvaise nouvelle, quand même, c'est qu'ils vont devoir... On leur offre pas le choix. Le PEL est clôturé automatiquement et ils vont devoir... la plupart n'auront pas le choix, seront obligés de se positionner sur des placements qui sera moins attrayants pour eux. C'est là où l'évolution de cette législation dans la loi de finances 2011, c'est pour ça qu'elle sent que ce magot de 93 milliards sent quand même un tout petit peu le soufre.
Qu'est-ce que je fais? Si je suis concerné, par exemple, j'ai ouvert, en mars ou avril 2011 ce PEL, donc je vais vite être rattrapé par la patrouille. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je contacte mon banquier? Qu'est-ce que je fais? Alors, concrètement,
pour lorsque vous regardez le patrimoine des Français, et souvent, nous, au revenu, on est très proche de nos lecteurs, on va chez eux, en fait, que remarque-t-on? On remarque que dans la plupart des patrimoines, il y a trop de liquidités et il n'y a pas assez d'actions. Donc, effectivement, on réfléchit sur à quoi j'ai envie d'utiliser cet argent. Pourquoi pas, si on décide de le conserver placé, pourquoi pas oser un minimum la bourse? Il n'y a qu'un Français sur six environ qui est investi en bourse. Oui. Donc, pourquoi pas utiliser cet argent pour se positionner sur un placement qui rapportera bien davantage dans la durée? Certes, il y a une prise de risque, mais à partir du moment où on agit avec méthode, notamment on rentre progressivement sur les marchés, à partir du moment où on a plusieurs années devant soi, je dirais que le risque est très très limité. En bourse, c'est très simple. Plus votre durée d'investissement est longue, plus la probabilité d'avoir un gain élevé ou de perdre de l'argent, gain élevé augmente et perdre de l'argent diminue. Donc, pourquoi pas, tout à l'heure, on parlait de la nécessité de diversifier à l'international ses portefeuilles et on expliquait que le risque France augmentait. On peut être patriote et investir à l'international. Pourquoi pas investir dans un placement très tendance, donc un fonds indiciel coté en bourse, un ETF pour les spécialistes, qui réplique par exemple l'Eurostock 50. Ouais, bon, ouais. Dans l'Eurostock 50, vous avez des très belles valeurs, ASML, SAP, ouais, Siemens, ouais, Allianz, etc. Ouais. Et donc ça diversifie au niveau de la zone euro sans risque de change votre portefeuille actions et ça vous permet éventuellement de mettre un premier pas en bourse. Donc, pourquoi pas utiliser cet argent et mieux placer cet argent. Tout à l'heure, on débattait avec Félix, le fait des inégalités des Français à l'égard de l'épargne. C'est énorme. On parle des inégalités de revenus. On parle des inégalités de patrimoine.
Il y a les Français qui peuvent épargner, ceux qui ne peuvent pas. Oui,
voilà. On parle aussi des inégalités au niveau du rendement de l'épargne. Ouais. L'épargne populaire, elle est rémunérée au taux du livret A, 1,7% de mémoire. L'épargne des plus aisés, qui peuvent se permettre de bloquer une partie de cet argent sur le long terme, peut rapporter du 10, 12, 13%. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que tout le monde recherche des gains de pouvoir d'achat. On peut gagner en pouvoir d'achat d'une façon qui est peu exploitée aujourd'hui, c'est en plaçant mieux. Oui. Et en plaçant mieux, c'est notamment en plaçant à un taux plus élevé. Et il n'y a pas de miracle aujourd'hui sur les marchés financiers. Si on veut gagner plus avec son épargne, il faut accepter de prendre un minimum de risque. Mais la bourse n'est pas le casino. Si on agit avec méthode, on peut gagner plus en limitant les risques.
Il faut mettre ce premier pied, comme vous disiez tout à l'heure, mais vous rappeliez aussi le niveau du taux d'épargne record à l'heure actuelle. Oui, effectivement, le climat actuel ambiant ne se prête pas forcément à mettre ce premier pied en bourse sur les marchés, là, Christian.
Alors, c'est malheureux. Le climat ambiant incite à épargner sur des produits sans risque parce que les Français ont peur pour leur avenir. Ils mettent de l'argent de côté, notamment pour payer, parce qu'ils anticipent une hausse des impôts. J'aurais tendance à dire que l'un n'empêche pas l'autre.
Comment est-ce qu'on franchit le cap psychologiquement, Christian?
Quand on franchit le cap, probablement, on conserve 80 ou 90% de son épargne sur des placements sans risque. Ouais. Donc là, c'est pour se rassurer sur l'avenir. Et, on n'investit que 5 ou 10% sur les marchés financiers. C'est même si en France, dans un pays où la protection sociale est aussi développée, même si demain vous perdez votre emploi, il y a des tas de coussins d'amortisseurs. Donc vous n'avez jamais besoin de la totalité de votre épargne, même en cas d'accident de la vie. Donc vous faites deux poches dans votre épargne. Une poche pour l'épargne de précaution et une poche de rendement pour le long terme qui, en fonction de votre situation personnelle, au début, peut très bien ne représenter que 2, 3, 4, 5% de l'ensemble de votre épargne, mais vous allez mettre un pied en bourse. Et en agissant avec méthode, je dirais que vous allez profiter de gains de pouvoir d'achat qui vous seront très utiles par ailleurs. Donc, on y va par étapes.
Bon, on y va par étapes. Voilà, conclusion. Certains vont devoir prendre une décision dans les prochains mois, s'en inquiéter. Ça sera peut-être effectivement un mal pour un bien, l'occasion de se reposer certaines questions alimentaires, effectivement. Voilà. Donc on rappelle, on parle de tous les PL ouverts à partir du 1er mars 2011. Tous les PL ouverts antérieurement, ça ne change rien, on est d'accord.
Tous les PEL ouverts antérieurement ont une durée de vie illimitée. Donc vous pouvez très bien, c'est du cas par cas, le clôturer ou le conserver ouvert en fonction de votre situation personnelle et de votre intérêt, s'il répond ou pas à vos besoins en termes d'épargnants. Mais tous les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011, effectivement, je vous confirme, ont une durée de vie de 15 ans maximum. Ouais. Donc à compter des 15 ans, le PEL est transformé en un compte sur livret fiscalisé. De toute façon, votre banque va certainement vous avertir. Oui. On parle quand même de 1,1 million d'épargnants concernés par une clôture du PEL entre 2026 et 2030. On parle tout de même de 93 milliards d'euros d'encours qui vont être réalloués, soit vers la consommation, soit vers d'autres placements. Donc, on parle d'un nombre très important d'épargnants, d'encours considérables et effectivement, vous avez raison, c'est le moment de se plonger dans ces placements, de regarder si vous n'avez pas trop de liquidité, de vous interroger, est-ce que vos placements répondent à vos besoins en tant qu'épargnant. Si vous avez des sommes considérables, et c'est le cas de beaucoup de Français, hein, on dit toujours sur les livrets, il faut garder l'équivalent de 2 ou 3 mois de revenus. Mais lorsque vous regardez de près, les Français ont souvent beaucoup plus, un an de revenus sur des livrets défiscalisés. C'est beaucoup trop et c'est pénalisant. On parle de la perte de pouvoir d'achat sur les salaires ou sur les retraites liées à l'accélération de l'inflation, et jamais l'accélération de l'inflation ces dernières années a coûté des dizaines de milliards d'euros aux épargnants. Donc là, le conseil ce matin sur votre antenne, prenez en charge votre épargne et regardez un petit peu ça de près, notamment à l'occasion de la clôture automatique de votre PEL à compter de l'année prochaine.
Et soyons patriotes éventuellement pour aller investir tout ça dans les entreprises françaises.
Bien sûr, on commence par les entreprises françaises et ensuite on diversifie à l'international.
Vous avez bien noté. Merci Christian Fontaine, le directeur de la rédaction du Revenu avec nous sur BFM Business. Merci Christian. À très vite avec plaisir. 11h42, on continue le placement du jour tout de suite sur BFM.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Alors, il y a les actions, il y a d'autres Eldorado, évidemment, dont on peut en parler. On va en parler avec Johnny LHM, qui est avec nous en visio et qu'on remercie d'être avec nous. Bonjour, Johnny. Merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business. Johnny LHM, directeur général d'Edmond Rothschild Private Equity. Est-ce que vous nous entendez, Johnny? Je vous vois.
Je vous entends très bien et merci pour l'invitation.
Merci également d'être avec nous. On vous entend parfaitement. On parlait des actions, on parlait PEL à l'instant. Bah, vous nous dites aujourd'hui pourquoi ne pas regarder dans cette instabilité politique du côté des PME qui sont démunis dans le contexte actuel et qui auraient bien besoin d'investisseurs et qui peuvent être, pourquoi pas, une source de diversification pour ces placements. C'est ça l'idée, hein ?
Tout à fait. En fait, investir dans les PME plus que jamais est une opportunité extraordinaire aujourd'hui. Si vous me permettez, j'aimerais essayer de vous convaincre et aider les auditeurs ou nos chers compatriotes français à mieux comprendre cet enjeu et cette opportunité. Des enjeux naissent des opportunités. Vous savez, en France, nous avons aujourd'hui plus de 4,3 millions de salariés à temps plein qui dépendent des PME.
Oui.
Et cet environnement d'incertitude ne va pas aider les PME. En revanche, l'opportunité existe dans le private equity ou l'investissement illiquide, l'investissement de long terme, parce que nous autres, nous sommes des acteurs qui peuvent accompagner dans la durée d'une façon à éliminer cette volatilité, à être un remède à l'incertitude. On engage des capitaux à long terme pour aider un plan de développement qui mène à rendre cette PME plus immune et aussi accompagner sa croissance. Également dans un contexte où nous voyons que malheureusement, il y a de moins en moins d'argent qui viennent sur la classe d'actifs du private equity.
Oui.
Ben, c'est un constat, c'est un fait. Mais de ça, il y a une énorme opportunité. Quelques chiffres. L'année passée, dans sa globalité à travers le monde, quasiment 1 000 milliards d'euros ont été collectés pour le private equity à l'échelle mondiale. Sur le premier semestre de cette année, on parle de 500 milliards. Ce sont des montants en baisse significative par rapport aux années qu'on a connues faste entre 2015 et 2022. En revanche, ce qu'on observe également, c'est que ces collectes se concentrent sur les grands fonds capable d'investir dans des grandes entreprises ou dans des très grands projets. Ce qui crée aussi une opportunité qu'un investissement qui est déjà fait et réalisé dans une PME, à condition qu'il soit fait avec rigueur et sélectivité, la croissance de cette PME, on peut créer la liquidité, à savoir notre sortie, rendre l'argent à notre investisseur, tout simplement en allant chercher ces grands fonds qui ont besoin de déployer. Et c'est toute l'opportunité qui existe aujourd'hui.
L'idée, c'est quand même de dire, et ça renvoie à des débats qu'on a eu en France ces derniers mois, que vous dites les PME, c'est un segment sous-estimé, alors qu'on parle de relocalisation, de réindustrialisation, et qu'on dit il faut miser sur les territoires, véritablement, sur les PME, sur les territoires en France, finalement. C'est ça l'idée de fond. Hein.
Oui, en fait, moi, j'aimerais vous parler de notre expérience personnelle chez Edmond Rothschild. Vous savez, on a un fonds d'investissement qui investit et qui traite la thématique de la transmission d'entreprises.
Oui.
Rien qu'en 2023, 51 000 entreprises ont été transmises en France. On parle que 55% de ces cessions ont été motivées par des départs à la retraite. Donc, il y a une vraie opportunité de reprise d'entreprise par des entrepreneurs qui ne cherchent pas à créer une start-up, mais à prendre un business qui est rentable, qui fonctionne, et à le faire croître. Et étonnamment, sur les dizaines de transactions qu'on a fait sur cette thématique, la grande majorité, à l'exception d'une seule, ont été faites dans les territoires. Pas à Paris, pas dans les grandes villes. Mmh. Et la beauté de ces business, ils sont agiles, sont versatiles, sont capables d'évoluer, à aller chercher cette valeur ajoutée dans une démarche de réindustrialisation, parce que aussi, il faut l'admettre, on ne peut pas réindustrialiser comme fin 19e siècle. Il faut aller chercher cette valeur ajoutée,
oui,
que ces entreprises en France et en Europe, grâce à ce génie français, à ce talent qui existe dans nos entreprises, nous sommes capables d'aller le chercher à condition qu'on mette le capital au travail sur le long terme.
Voilà donc effectivement pour les défis que vous soulevez. Donc vous nous confirmez, le private equity a encore un rôle très très important, Johnny, à jouer.
Plus que jamais, et d'autant plus, oui, à chaque fois qu'on ouvre malheureusement une émission sur un plateau télé ou sur une radio, on entend parler des crises, on entend parler des situations difficiles. Nous sommes face à une énorme opportunité que représente cette rupture qu'on a vu dans les chaînes de valeur et cette fin de cette mondialisation.
Oui.
On a une opportunité extrêmement importante qui se présente à nous, qui est cette régionalisation de nos PME et leur ouverture vers le continent qui est le plus proche de nous, qui est le continent africain et le Moyen-Orient, où il y a un dividende démographique, plus de jeunes qui rentrent au marché du travail. Il y a dans certains pays un vrai pouvoir d'achat, dans certains pays une création d'une classe moyenne. C'est notre partenaire naturel pour profiter de cet enjeu qui est cette régionalisation, cette réorganisation des chaînes de valeur à l'échelle mondiale, pour repositionner nos PME européennes dans ce sens-là. Et d'ailleurs, chez Edmond Rothschild, nous avons une autre stratégie qui opère sous cet axe-là, et vous serez étonné que ce soit en France ou à l'échelle pan-européenne, ces PME peuvent être source de rentabilité à double chiffre, mais également création de valeur à long terme dans, oui, une démarche très durable.
Voilà pour le private equity, voilà sur ces PME sur lesquelles il faut miser dans les prochaines années plus que jamais. Merci beaucoup Johnny Alachien d'avoir été avec nous ce matin dans Tout pour investir sur BFM Business, le directeur général d'Edmond Rothschild Private Equity avec nous sur BFM Business. 11h48, petite pause. On revient dans deux minutes, même pas une, sur BFM Business. Comment va le private equity en France en 2025? On voit ça dans un instant. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Allez, le coffre-fort, on va parler du crowdfunding en France en 2025. Benjamin Watine est avec nous. Bonjour Benjamin, bienvenue.
Bonjour, merci.
Co-fondateur et CEO de So We Fund, qui est un des pionniers. Hein. Vous êtes lancé en 2014, hein. Vous êtes un des grands acteurs historiques du marché aujourd'hui, hein, très clairement. Hein.
Oui, on fait partie, on est pionnier et leader du co-investissement, ouais, dans l'innovation. Donc nous, notre modèle et notre particularité, eh bien, c'est qu'on va présenter à notre communauté d'investisseurs, qui est composée d'un petit peu plus de 160 000 membres,
ouais,
eh bien, des dossiers d'investissement qui sont co-investis par des venture capital, des, ouais, family office, donc des professionnels de l'investissement.
Ouais.
Et on est considéré comme la plateforme la plus sélective du marché. En quelques chiffres, ça fait, on a un petit peu plus de 120 millions d'euros investis, ouais, pour une centaine d'entreprises. Donc voilà, on fête nos 10 ans.
Bon, vous fêtez vos 10 ans et j'ai envie de vous demander à vous, mais comme on a envie de le demander à tous les acteurs du secteur, cette question basique, c'est comment ça va? Parce qu'on a vu qu'il y a une dizaine d'années assez prometteuses. Et puis un coup de mou finalement qu'on voit depuis environ un an et demi. Comment ça va pour le secteur aujourd'hui fondamentalement?
Malheureusement, c'est un peu la fin de l'euphorie.
C'est la fin de l'euphorie. Est-ce que vous dites juste la fin de l'euphorie ou vous dites vrai retournement? Enfin voilà, comment vous percevez ça?
Certains vont dire que c'est une correction. Mmh. C'est vrai que si on reprend un petit peu les chiffres et qu'on est un petit peu réaliste et un peu positif aussi, hein, il faut savoir que dans les années 2015, 2000, jusqu'à 2018-2019, 2015, c'était 2 milliards de, ouais, levées. 2018-2019, on est allé jusqu'à 5 milliards. Et c'est après, en 2020, 2021, 2022, que là, il y a eu une grosse croissance avec près de 8-9 milliards investis.
Alors, voilà, c'est ça, je vois, constat. Donc, levé au premier semestre 2025, chiffre EY, hein, 2,8 milliards.
Premier semestre, 2 milliards 8. Grosse régression, c'est le plus bas premier semestre depuis 2020. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un petit peu la fin de l'euphorie. On pourrait même dire qu'on commence à être en panne. Donc voilà, si c'est une correction, c'est au moins le moment, eh bien, on ne peut pas l'ignorer.
Oui.
Donc, est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme ? Peut-être pas tout de suite, mais il faut quand même en prendre conscience. Et c'est quand même beaucoup moins d'investissement. Il y a quelques signaux qui ne sont pas hyper positifs.
Il y a des signaux pas positifs. Ça invite à quoi pour vous ? À se réinventer, à se diversifier ? Ça invite à faire quelle réflexion aujourd'hui, finalement ?
Déjà, il faudrait quand même que le monde du venture capitalisme français, qu'on essaye de remuer un petit peu le cocotier.
C'est un combat ancestral, ça.
C'est vrai qu'avec donc un niveau plus bas depuis 5 ans, un coup d'arrêt au niveau de la croissance en France, moins de 1%, ça fait pas rêver. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est, on le disait juste avant avec votre invité précédent, c'est que l'investissement en equity, c'est un investissement sur le temps long. C'est un investissement qui est pas volatile comme peuvent l'être les produits boursiers ou crypto, et qui va être quelque chose qui va généralement traverser les cycles, traverser certaines tempêtes, et même peut-être être des très très belles opportunités. Et c'est pour ça que ceux qui prennent le relais aujourd'hui, en France en tout cas, et dans pas mal du reste du monde, sont les family office qui sont très 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 engagés dans dans ce secteur. Ils mettent près de 20-30% de leur patrimoine. Ensuite, vous avez les particuliers qui continuent d'investir massivement et qui en ont un petit peu... Ça y est, ils sont habitués. Ça fait 3 ans qu'on ne leur présente pas de budget. Ça fait 3 ans qu'il y a des problèmes.
Qu'est-ce qu'il va falloir leur offrir de plus aux clients demain, alors, finalement, pour vous ?
De la stabilité.
De la stabilité.
C'est ce que les investisseurs comme les entrepreneurs attendent, très clairement. Et puis essayer de... Parce qu'il y a quand même des avantages aujourd'hui. Oui. On incite les Français à diriger une partie de leur épargne. Il y a Paul Midi avec le dispositif Midi qui permet à ces Français, donc aux Français, d'investir et de pouvoir profiter d'un avantage fiscal de 30 à 50% sur leur impôt sur le revenu. C'est encore possible. Donc, jusqu'à la fin de l'année, je vous invite à soutenir l'économie française, si vous avez envie, et sur des plateformes comme la nôtre, dans des projets qui vont être des secteurs qui tiennent.
C'est pas qu'un problème français, c'est un problème européen, on le voit dans les chiffres quand même.
En effet, c'est un problème européen. Si vous voulez, on avait l'habitude, c'est un peu comme notre nouvelle note aujourd'hui, on avait l'habitude de se comparer aux Allemands. Les Allemands, on était premiers de la classe l'année dernière sur le vieux continent avec un peu plus de 3 milliards d'investis. Oui. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui nous dépasse et largement. Nous, on est à 2,8 milliards, ils sont à 3,5 milliards.
C'est ça.
Mais il faut savoir qu'on est très très loin
du UK qui est à 7,4 milliards.
C'est plus que l'Allemagne et la France réunies en investissement. Ce qu'il faut soutenir est l'élément un petit peu négatif aujourd'hui, c'est la partie growth, c'est-à-dire toutes les startups qui sont financées après 100 millions. Le problème, c'est quand on investit
c'est
au
problème
début...
Le fameux problème du ticket d'entrée.
Le problème, c'est quand on investit au début dans la chaîne du financement, l'investisseur qui investit au tout début, il faut qu'il trouve des solutions de sortie après. Mais à partir d'un certain moment, les grands investisseurs, il faut qu'ils trouvent des solutions de sortie également. Et au-dessus de 100 millions, en France, c'est compliqué. Heureusement... La dynamique est positive. On vient d'apprendre le méga deal de Mistral.
Oui, absolument.
Ça va redonner un petit peu de boost.
On croyait qu'on avait réussi parce que le plafond des 100 millions, le plafond de verre des 100 millions, ça fait un moment qu'on en parlait. On avait l'impression depuis, un an, deux ans, que ça y est, on l'avait crevé ce plafond. Non, vous voyez encore un souci pour vous
Ça a évité quelque chose de vraiment très, très bien avec toutes les nouvelles, les 25.
Je pense avoir compris que le plafond. Il n'y avait plus de plafond autour des 100 millions. C'était quelque chose de très évoqué il y a un an ou deux.
C'est 80% de baisse par rapport à l'année dernière. On est dans l'incertitude, on est dans la difficulté. Et ça, c'est la grande force de l'Allemagne, justement, qui, elle, a tenu sur cette partie growth. Donc ça, il va falloir qu'on ne lâche pas et qu'on trouve des solutions pour pouvoir flécher toujours plus d'épargne des Français vers l'investissement. Et il y a d'autres dispositifs. On parle de ces fameux fonds de pension américains qui, eux, font le boulot. En France, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose avec l'assurance.
Vous avez vu que les langues commencent à se délier sur le sujet des fonds de pension, que ça commence à bouger un peu dans le discours politique. Là, vous avez entendu des gens comme Édouard Philippe, comme Gabriel Attal qui commencent à en parler. Vous sentez que ça commence à bouger, ce débat-là, autour des...
C'est assez factuel, en fait.
C'est poussif.
À un moment donné, ça va être nécessaire, parce que sinon, on ne va pas tenir. Il y a quand même une grosse différence qui commence à se faire. Le trou se creuse.
Voilà pour le financement participatif. Voilà, simple trou d'air, on va voir ça comme ça. Merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, d'être passé nous voir ce matin. Benjamin Watine, cofondateur et CEO de SoWeFund. Merci beaucoup d'être passé.
Merci beaucoup.
C'est terminé pour Tout pour Investir, qui revient demain à 11h avec Antoine Larigauderie. Dans un instant, il sera midi. C'est Marie-Cœur de Roy, les experts de l'IMO. Retour demain à 11h pour TPI. Bonne journée, à demain sur BFM.
pour investir sur BFM Business.